Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez pour cette nouvelle saison des Rendez-vous du Mantois sur BPM, notre émission de 20 minutes en direct consacrée aux élus locaux. Et pour démarrer cette nouvelle série, nous allons parler de la jolie commune de Saint-Martin-la-Garenne en compagnie de Stéphane Champagne, maire de la ville depuis 2014 et qui est également vice-président délégué à la gestion des déchets pour la GPSEO, Grand Paris Seine-et-Oise. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Ensemble, ce matin, nous allons parler de la commune et des projets de longue haleine en passe de se réaliser, tels que la vidéoprotection, la salle des fêtes ou encore l'aménagement de l'entrée du port. Puis nous aborderons aussi les futurs événements qui auront lieu à Saint-Martin-la-Garenne. Je vous propose de débuter par la vidéoprotection, ce projet pour lequel vous vous êtes battu et vous avez su être patient.
Oui, on a su être patient parce que c'est un projet auquel on tenait particulièrement. Effectivement, ça fait quelques années qu'on a annoncé à nos administrés de la vidéoprotection. On a perdu un petit peu de temps puisque, comme tout ce qu'on fait, on essaie d'obtenir des subventions à chaque fois. Et là, en l'occurrence, pendant 2 années consécutives, on nous a refusé la subvention liée à la vidéoprotection. Donc chaque année, comme vous dites, avec beaucoup de patience, on a refait nos dossiers, on les a représentés à la sous-préfecture et effectivement cette année et pour la troisième nous avons obtenu les subventions, donc la vidéoprotection devrait se déployer sur la commune dans les semaines qui viennent, très rapidement. Donc voilà, c'est un projet auquel on tenait particulièrement pour différentes raisons, puisque la vidéoprotection, alors je le précise tout de suite parce que je sais que c'est un sujet qui fait souvent discuter entre les gens, et d'ailleurs on l'est tous un peu, attachés aux libertés individuelles et puis une vision plus sécuritaire. Bon, le projet en fait, il se limite principalement aux entrées et sorties de ville, donc on n'a pas envie de mettre des caméras dans toutes les rues de la commune.
Le but n'est pas de couvrir toute la ville, de regarder tout ce qui s'y passe partout.
Tout à fait, et surtout pas de regarder ce qui s'y passe. Voilà, je rappelle que c'est très cadré par la CNIL, que les images sortent uniquement sur réquisition, et qu'elles peuvent être utiles. Donc, dans 2 cas principaux, je pense au cambriolage régulièrement. Alors, les forces de police et de gendarmerie sont très friandes de la vidéoprotection, parce que quand vous arrivez par les images à retrouver l'auteur d'un cambriolage, et c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est quelque chose qui marche très bien, ils arrivent en plus à remonter plusieurs cambriolages, parce que quand vous attrapez l'auteur, en général, il a laissé sa trace sur d'autres endroits, donc voilà, c'est quelque chose que les forces de police et de gendarmerie apprécient particulièrement. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est les dépôts sauvages qui, quand même, j'allais dire, pourrissent la vie des élus et des habitants aussi, puisque, voilà, donc ça nous coûte cher. Et puis, c'est pas très agréable. Vous avez présenté Saint-Martin-la-Garenne tout à l'heure dans votre introduction comme un joli village, et je vous en remercie, et je pense que vous avez raison. Voilà, voir des dépôts sauvages pousser un peu partout, c'est jamais agréable. Donc effectivement, avec les caméras, quand vous voyez une remorque entrée pleine et sortir 30 minutes plus tard à vide, on a vite fait de remonter, de retrouver l'auteur et éventuellement de le faire payer. Aujourd'hui, on fait payer quand on arrive à identifier des auteurs de dépôts sauvages, parce que c'est inadmissible et que c'est pas à nous de payer.
Surtout pour en avoir parlé avec de nombreux maires ici dans les rendez-vous du Mantois, on sait qu'une fois la vidéoprotection installée dans une ville, les dépôts sauvages se font dans les villes voisines qui ne sont pas encore équipées. Donc là, c'est sûr que si Saint-Martin n'était pas encore équipé, vous risquiez de récupérer peut-être si les autres communes étaient déjà équipées de vidéoprotection.
Oui, alors effectivement, les communes voisines le sont pour certaines, Follainville-d'Ennemont, Guerne, et justement, ça permettra d'offrir un maillage un peu plus large, quoi. Mais je le rappelle, on est surtout sur les entrées-sorties de ville, à 2-3 exceptions près, donc je pense à l'accès du stade et de l'école, et de la salle polyvalente, pour éviter certaines dégradations qu'on pourrait constater. Maintenant, à ces exceptions près, on est surtout sur les entrées-sorties de ville, donc voilà, puisque les libertés individuelles, c'est quelque chose à quoi on tient aussi, et effectivement... On peut se dire que ça fait pas rêver aujourd'hui un village avec des caméras dans toutes les rues, etc. C'est pas les ornements les plus joyeux qu'on peut voir pousser dans nos villes. Pour autant, la sécurité, c'est aujourd'hui un vrai problème. Et je pense que ces caméras, elles ont des bonnes raisons d'être. Et c'est toujours pour voir des cambriolages sur la commune, comme ça peut arriver dans d'autres. On n'a pas un taux spécialement plus élevé que les autres communes, mais ça arrive chez nous comme ailleurs. C'est aussi un traumatisme, un cambriolage. Souvent, vous perdez quelques objets, mais beaucoup plus que ça. Il y a de la valeur sentimentale, cette impression d'avoir été violé dans votre intimité. Voilà, donc c'est, ça me paraît tout à fait un investissement tout à fait légitime et intéressant.
Combien est-ce que vous souhaitez en installer? Vous nous avez dit en mettre dans les entrées de ville, vers l'école, le stade. Est-ce que c'est un positionnement qui a pu être travaillé en partenariat?
Tout à fait. Donc, on doit être à 8 caméras au total. C'est à peu près ce chiffre que j'ai en tête à une près. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec la gendarmerie. Donc, il y a un référent au niveau départemental. Au sein de la gendarmerie qui est spécialisée sur ces questions et donc qui nous aide à mieux les placer dans la commune aux endroits les plus stratégiques. Voilà, bon, il y a naturellement les endroits stratégiques de passage puisque il faut naturellement couvrir les entrées sorties de ville. Il y a aussi des paramètres techniques puisque on les accroche pas n'importe où, souvent sur des candélabres. S'il n'y a pas de candélabre à un certain endroit, c'est un système de caméra avec batterie, donc ça peut être plus compliqué à faire vivre également. Enfin voilà, donc il y a toutes ces questions. Oui, c'est pas un projet que vous lancez comme ça à la légère, et effectivement, on a été aidé par la gendarmerie sur ce projet, et je les en remercie.
Un autre projet de longue haleine continue d'avancer, ce projet qui était pendant votre campagne annoncé déjà, la salle des fêtes. Qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement?
Alors la salle des fêtes, je crois qu'on en a déjà parlé puisque c'est là aussi un projet au long cours. C'est un projet au long cours pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est quand même un investissement coûteux et qui se réfléchit sur quelques années. L'objectif c'était d'avoir une vraie salle des fêtes puisqu'aujourd'hui on avait une petite salle polyvalente au milieu des habitations, donc pas très pratique en termes de nuisances sonores. Donc voilà, je pense que on a besoin naturellement pour les associations d'avoir des endroits pour se retrouver. On a besoin aussi pour les familles qui ont des besoins aujourd'hui de se retrouver pour les différentes fêtes de famille, etc. Souvent on est sollicité pour des locations. Les gens cherchent pour un anniversaire ou une autre fête familiale des endroits et des endroits de préférence à prix abordable, ce qu'on trouve pas toujours. Donc on voulait faire ça et faire ça loin de la salle polyvalente aujourd'hui qui pose des problèmes en termes de nuisances sonores et de voisinage. Donc quand je dis que ça a été long, c'est effectivement bien sûr ça a un coût et puis après il faut que votre projet soit compatible avec le plan local d'urbanisme. Vous pouvez pas construire n'importe où, c'est valable aussi pour nous, pas uniquement pour les particuliers. Puisqu'on veut éviter les nuisances sonores, il faut la construire loin des habitations. Donc déjà, entre ces deux paramètres, il y a quelque chose d'un peu antinomique. Et puis, plus vous la construisez loin, si vous êtes obligé de tirer les réseaux eau, assainissement, électricité, forcément, vous montez le prix de votre projet. Donc voilà, il faut répondre à tous ces paramètres et c'est un petit peu compliqué. Donc
pas mal de contraintes, mais ça y est, a priori...
Ça y est.
Au niveau des subventions, vous nous avez parlé des subventions, vous nous avez parlé surtout du coût de ce financement. Comment ça va se passer?
Comment ça va se passer? Donc, il s'agit d'un contrat rural, donc on a des subventions du département, de la région et le fonds de concours attribué aux petites communes par GPSEO également. Donc, on a tout un montage de subventions.
Voilà. Vous nous avez parlé de vos contraintes, du coup, proximité. Des réseaux, loin malgré tout des habitations. Est-ce que vous avez réussi à trouver le lieu idéal?
Je sentais poindre la question. Oui, effectivement, on l'a trouvé. C'est, pour ceux qui connaissent, ce sera autour de notre stade. On va quelque peu modifier, puisque effectivement, le stade de Saint-Martin, c'était le seul endroit où on a à peu près réuni toutes les conditions, donc on est loin des habitations. Il y a tout de même de l'électricité qui arrive et le plan local d'urbanisme intercommunal le permet à cet endroit-là.
D'autres travaux sont d'ailleurs prévus puisque le second projet qui va bientôt démarrer, c'est la deuxième entrée du port qui va voir le jour. Comment est-ce que ça fonctionne actuellement au niveau du port?
Alors, on a la chance d'avoir à Saint-Martin-la-Garenne le plus grand port de plaisance d'Île-de-France, qui est un endroit, j'allais dire, paradisiaque. Ça, c'est très personnel comme vision, mais... En tout cas, c'est un endroit très agréable. On a une activité économique naturellement sur ce port qui est une structure communale, mais gérée en délégation de service public. Et donc, on souhaitait effectivement faire une entrée de port plus esthétique, plus agréable et plus dans toutes ces valeurs que porte le port. On a aussi à l'entrée du port une entreprise plus industrielle qui s'est implantée par la suite. Donc, on avait une entrée commune et les deux activités avaient besoin d'avoir chacun leur entrée, leur existence propre. Donc, il fallait aménager pour des raisons pratiques. Et puis, on souhaite faire quelque chose d'agréable puisque ça va dans la manière dont on développe ce port. Sur les 10 dernières années, on a fait un certain nombre d'investissements, puisque non seulement c'est le plus grand port de plaisance d'Île-de-France, mais c'est surtout un port propre qui a été labellisé pour ça. Parce qu'au fil des années, on a fait un certain nombre de travaux, dont une station d'assainissement non collective. Aujourd'hui, les bateaux, donc parce que à l'époque, historiquement, les bateaux n'avaient pas d'assainissement propre. Je ne vous fais pas de dessin, je ne vais pas aller plus loin.
Je crois qu'on voit l'idée.
Donc on a fait en sorte que ce port soit un port propre. Il est en plus placé en zone Natura 2000, donc on est vraiment dans un élément...
Qu'est-ce que ça signifie, Natura 2000 ?
Alors Natura 2000, c'est un secteur protégé, donc en particulier pour la faune, la flore. Donc ce port a vraiment une dimension environnementale importante pour nous. Donc il y a une activité économique... La municipalité en tire bien évidemment des revenus, mais au-delà de cette exploitation, on souhaite vraiment que ce port ait cette image de port propre et respectueux de l'environnement, surtout à l'endroit où il se trouve.
Donc finalement, les deux entrées, c'est pour plus de simplicité, pour séparer un petit peu la partie industrielle de la partie plus loisir.
Voilà, de manière pratico-pratique, c'est effectivement ça l'idée, puisque les choses se sont faites sur le temps, donc on avait ce port qui a eu déjà une histoire un petit peu compliquée. Donc aujourd'hui, le port fonctionne. La seconde entreprise est arrivée plus tard. Et donc, sur des structures, j'allais dire, historiques et anciennes. Donc, il convenait effectivement de faire en sorte que chacun se trouve bien dans son activité et puisse travailler convenablement.
Combien de temps vont durer les travaux et quand vont-ils démarrer ?
Les travaux devraient démarrer dans quelques semaines et je pense qu'on en a pour 2 à 3 mois.
Là aussi, vous avez été aidé par des subventions ?
On a là-dessus une subvention de la région qui est destinée donc, à un fonds pour les projets touristiques. Donc effectivement, c'est un projet qui doit tourner autour des 200 000 euros et on a une subvention de 50% de la région Île-de-France.
Le port qui a d'ailleurs été mis à l'honneur récemment, avec la Madjac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors la Madjac, c'était une opération organisée donc, par Madjac, qui est une agence événementielle, et en collaboration avec l'Office du tourisme Terre de Seine, donc l'Office du tourisme, j'allais dire GPSEO, puisque c'est une émanation de GPSEO, qui vise à développer le tourisme de court séjour et... Dans la vallée de Seine, autour de chez nous, sur le périmètre GPSEO. Voilà. Donc, c'était il y a 3 semaines, je crois, plus de 200 paddles qui sont arrivés sur le port de Lillon, avec un marché de producteurs locaux le dimanche matin. Enfin, voilà, ça a été un regroupement sur tout le week-end, fort sympathique, avec beaucoup de jeunesse sur le port, de dynamisme. Et
ça avait l'air extrêmement festif. En tout cas, quand on voit les vidéos, ça a l'air très animé.
C'était un beau week-end, très animé. Et je pense que le port était vraiment un endroit qui se prêtait particulièrement à cet événement.
Vous aimeriez organiser d'autres événements au niveau du port, justement, des choses un peu plus festives ?
Oui, absolument. Alors après, on a aussi sur ce port des plaisanciers qui sont là pour l'activité de plaisance. Donc, il convient pas non plus d'en faire forcément quelque chose et d'y mettre une activité musicale jusqu'à point d'heure tous les week-ends, puisque on a des gens qui vivent sur ce port déjà. Faut déjà penser à eux, puisqu'on a des gens qui vivent à l'année sur le port. Ils sont pas majoritaires par rapport au nombre d'anneaux, mais en tout cas ils sont bien là et ça fait plaisir de les avoir sur cette commune et ils font partie de la vie du port pleinement. On a aussi des gens qui laissent leur bateau pour des activités de plaisance.
Donc du coup, pas d'autres activités musicales en tout cas. On va garder le calme pour les...
De manière, là en l'occurrence justement, ça a été très festif comme vous le rappeliez, et pour autant ça n'a pas posé de problème de cohabitation, tout le monde y a trouvé son compte, donc non, on peut faire vivre ce port. Voilà, il suffit de doser en fait, et de savoir, de faire les choses à des fréquences qui permettent quand même de respecter chacun, et y compris ceux qui sont là pour y vivre. On a aussi, je ne l'ai pas cité, mais on a une entreprise, l'Escale Royale, qui a développé de l'habitat insolite sur le port. C'est une affaire qui marche très très bien. On a 5 bateaux sur le port qui reçoivent des gens pour une nuit insolite, et je pense qu'ils affichent un très fort taux de remplissage.
Voilà, ça va continuer.
Et ça marche très très bien.
Parce que vous nous avez donné envie d'aller voir et d'en profiter du coup.
N'hésitez pas.
En tout cas, le prochain événement d'envergure, on va dire ça comme ça, ce sera bien sur la terre ferme cette fois-ci, et ce sera le premier week-end de décembre.
Oui, le premier week-end de décembre, donc c'est le marché de Noël, comme dans un certain nombre de communes. Donc c'est un rendez-vous annuel à Saint-Martin-la-Garenne qui est sympa, qui trouve son public chaque année. Et quand je vous disais comme un peu partout, bon, on a juste un petit souci, donc je profite aussi de votre antenne pour ça, c'est que on a pas mal d'exposants autour de ce marché de Noël. Il nous manque souvent les exposants liés à des activités de bouche, ce qui est quand même quelque chose d'assez attractif pour le marché de Noël. Donc voilà, s'il y a des gens qui souhaitent venir tenir un stand... avec quelques nourritures de Noël et de circonstances. On les attend.
Surtout que dans cette période un peu fraîche, tout ce qui va être gaufres, crêpes, tout ce qui va être un peu chaud va faire plaisir à tout le monde. Donc c'est l'occasion, profitez-en. On vous contacte directement à la mairie.
Tout à fait. Voilà. Donc comme je disais, on a besoin de ça parce que c'est un peu comme les fêtes foraines au moment du printemps. C'est des événements qui arrivent dans toutes les communes sur les mêmes week-ends. Donc forcément, je pense à ça parce qu'on avait souvent, on avait le problème à l'époque, on avait beaucoup de mal à trouver des forains, puisque sur le même week-end, vous avez des fêtes foraines partout, que les gens vont forcément, les forains vont préférer des communes plus grandes où le chiffre d'affaires sera plus important. Donc pour les petites communes, ça reste une complication d'organiser ces événements qui ont lieu sur la même date un peu partout, quoi. Je comprends l'exposant qui va préférer aller dans une grande ville sur le marché de Noël où il risque de vendre plus que dans un petit village. Pour autant, on sait attirer du monde aussi, donc n'hésitez pas.
Quels sont les stands qui sont déjà prévus? À défaut d'avoir des stands de bouche, pour le moment, qu'est-ce que vous avez prévu comme type de stand?
Alors, on a toujours l'association de protection du patrimoine de Saint-Martin qui est présente sur les lieux. On a, je crois, un fleuriste, un marchand de vin, me semble-t-il. L'année dernière, nous avions des huîtres. Donc je saurais pas vous faire un point exact à date, puisque on a commencé dès la rentrée à contacter les exposants potentiels, donc je pourrais pas vous dire à date qui a déjà pu répondre, puisqu'on en est au début.
On va encore profiter un petit peu de la chaleur de septembre avant de commencer à se penser à Noël alors, dans ces
oui,
cas-là.
Absolument.
Donc on le rappelle, ce sera le samedi 7 et le dimanche 8 décembre, hein, du coup, pour ce marché de Noël qui est une véritable tradition pour la ville.
Tout à fait, et qui se trouve sous l'école, donc entre l'école et le stade, donc n'hésitez pas et venez nombreux.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour notre émission. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
J'en profite pour remercier la technique de PPM sans qui cette émission en direct ne serait possible. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez bien sûr la retrouver ainsi que les précédentes en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. À très vite pour une nouvelle émission sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.